paroles d'un Aitachi avec Henri Fourmi.
Chers amis de Radio La Prodi, bonjour. Lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille applaudit. À grands cris, disait Victor Hugo. Aujourd'hui, c'est lorsque l'enfant adulte reparaît. Il est de plus en plus fréquent de voir des jeunes adultes qui se trouvent dans l'obligation de revenir habiter chez leurs parents. Les raisons de ce retour chez papa-maman sont liées à une nécessité économique, professionnelle, familiale ou de santé qui, la plupart du temps, s'impose sans beaucoup de préavis et peut s'inscrire dans la durée de manière tout aussi imprévisible. Ces événements conduisent les plus âgés à déranger leurs habitudes et adapter leur vie avec plus ou moins de facilité selon les situations et les moyens disponibles pour accueillir là où les personnes concernées, car il peut y avoir un couple et peut-être avec des enfants. Très souvent, au début, l'accueil semble bien se passer, chacun faisant de son mieux pour s'intégrer dans l'espace qui lui est offert, avec le souci de ne pas peser sur les rythmes et les besoins des personnes accueillantes et de trouver des solutions d'organisation qui facilitent la cohabitation intergénérationnelle. Les circonstances qui font qu'un jeune adulte, éventuellement son foyer, est contraint de revenir vivre chez ses parents et peut-être chez ses beaux-parents ou ses grands-parents, ne sont pas toujours maîtrisables, et notamment ni dans leurs conditions, ni dans leur durée. Toutefois, si l'accueil est proposé, c'est qu'une forme de charité y est exprimée. S'il est évident que la personne accueillie est redevable envers ceux qui l'accueillent, il est parfois moins reconnu que ces derniers peuvent également recevoir une grande et profonde joie à vivre cette hospitalité temporaire. Bien vite, cependant, les premières difficultés apparaissent, qui ne sont pas très graves en vérité, mais qui peuvent évoluer progressivement vers des tensions plus ou moins exprimées. Malgré l'affection des uns pour les autres, un malaise et un mal-être deviennent sensibles, alourdissant les relations des non-dits ou de mal-dits, qui mettent l'harmonie familiale à l'épreuve, fragilisant la patience et la bonne humeur. Quand la durée de la cohabitation n'est pas prévisible, il importe de trouver de nouveaux équilibres qui nécessitent de la part des uns et des autres de véritables changements de comportement, et pour être vécus en famille et dans l'affection mutuelle, ils ne sont pas moins redoutables à mettre en œuvre durablement. Il est à ce titre important de ne pas trop modifier les habitudes inscrites dans le rythme de ceux qui accueillent, surtout si leur âge ou leur santé demande une attention particulière. Par exemple, l'organisation de la maison, ménage, gestion de la machine à laver, partage des courses ou des factures d'eau, électricité, téléphone, voire jardinage ou utilisation du véhicule, doit faire l'objet, le cas échéant, de nécessaires ajustements qui donnent à chacun, selon ses possibilités, talents et disponibilités, d'exprimer sa solidarité au quotidien. En réalité, les conditions matérielles ne sont pas les plus essentielles pour permettre l'harmonie des relations. Mais il s'agit plus d'une disposition du cœur et de l'intelligence pour trouver en chaque circonstance les gestes, les mots, les regards et les silences, parfois les distances, qui donnent à l'autre à la fois sa place et lui permettent de s'exprimer. Il importe en effet que chaque membre de la famille ainsi nouvellement réuni puisse se sentir reconnu et accepté à part entière malgré les différences. Quand on vit cette nécessité d'accueillir un enfant adulte en situation de précarité momentanée, on ne peut que compatir à la souffrance de sa condition. Notre époque juge durement et injustement les situations d'échec, souvent liées à des difficultés professionnelles. Le retour contraint d'un adulte chez ses parents étant souvent considéré comme anormal, il y a une forme de double peine sociale à supporter, celle du problème à l'origine de ce retour, et celle liée au regard de l'entourage, notamment des proches, qui peut être plus difficile à vivre, car plus insidieux. Dans certains cas, les parents peuvent être déstabilisés par les modes de vie de leurs enfants adultes, surtout si ces modes de vie perturbent les rythmes adoptés de longue date. Si les plus jeunes s'adaptent naturellement aux évolutions technologiques et organisationnelles de la société, pour les parents, chaque nouveauté suscite un certain effort pour apprendre les nouveaux codes, intégrer les dernières technologies, garder la capacité d'agir dans un environnement de plus en plus numérisé, où les contacts humains, notamment avec les services publics traditionnels, se raréfient. Ces différences de rythme et de mode de vie peuvent être source de divergences et de situations douloureuses qui compliquent la cohabitation. Cependant, et peut-être à cause et à travers ces difficultés, cela peut également devenir le lieu d'une forme de bienveillance où les relations vont gagner en vérité comme en charité, permettant à chacun de grandir en humanité. Il est en effet très probable qu'en certaines situations, une démarche de vérité, d'écoute, de dialogue, avec des ajustements prudents, soit nécessaire pour compenser des dérives qui mettent l'harmonie globale en péril. Il s'agit aussi d'éclairer et de soigner les ressentiments interpersonnels qui empoisonnent les relations de tous au-delà des personnes concernées. La bienveillance ne s'improvise pas, et le désir de pardon n'est pas toujours suffisant, malgré les bonnes volontés, pour apaiser les cœurs. Alors le recours à la prière devient une voie de réconciliation, à condition d'avoir encore du sens dans la vie de l'un ou de l'autre, sinon de tous. Notre société dite post-chrétienne n'a pas complètement perdu de vue ces habitudes que nos anciens nous transmettaient sans contrainte, par simple invitation, par simple imitation. Enfant, quand j'allais chez mes grands-parents en vacances, lorsqu'ils récitaient le Bénédicité en basque, j'étais toujours attentif à respecter cette ambiance de prière. Même si je n'en comprenais pas les paroles, j'avais conscience de l'importance de ce rite et je m'évertuais à en retenir les sons pour les réciter approximativement sous le regard amusé des adultes. Aujourd'hui, je perpétue ce rite avec un sentiment de reconnaissance vis-à-vis de mes grands-parents qui me les rend présents, fervents et souriants. Après l'avoir transmis à mes enfants, avec les aléas de toute transmission, je poursuis auprès de mes petits-enfants qui participent au rite du bénédicité selon leur aptitude, avec la même application que celle de ma propre enfance. Je me réjouis autant de toutes ces réminiscences que de leur actualisation dans ma famille. Plus largement, la prière familiale est un lieu de communion et de réconciliation qui fait que la famille n'est pas un système de cohabitation, mais une communauté vivante, dynamique et chargée de sens, donc riche d'avenir. Ainsi, certaines valeurs s'y inscrivent doucement en profondeur, œuvrant mystérieusement dans une dimension d'éternité, sans crainte des obstacles de l'âge, de l'expérience personnelle, des situations conjoncturelles. Toute prière est une porte ouverte vers la véritable source de l'amour. Une famille qui prie puise à la source de l'amour et devient elle-même source d'amour. En ces temps où de nombreuses familles traversent des situations difficiles, au-delà des conflits géopolitiques actuels, il est réconfortant de savoir que la solidarité intergénérationnelle joue encore son rôle traditionnel. Ce rôle est appelé à connaître de nouveaux développements en raison des bouleversements sociaux et économiques actuels. Face à l'évolution en cours, la richesse humaine des familles se révèle comme un lieu d'accueil et de ressourcement. C'est également un lieu où l'espérance retrouve ses racines, car c'est dans la famille que se construit l'avenir. Je vous remercie pour votre attention. À une prochaine fois.